Il est 20h à Paris, 23h à Bakou, et vous êtes bien sur RFI.
Véronique Rigolet.
Et à la une ce soir, le difficile début des négociations à la COP29 sur le climat à Bakou, qui a même peiné aujourd'hui à s'accorder sur l'ordre du jour. Malgré les appels à la coopération, 6 jours après la réélection de Donald Trump. Donald Trump qui multiplie les appels concernant la guerre en Ukraine. Le Washington Post fait même état d'un échange avec le président russe Vladimir Poutine. Appel démenti par le Kremlin pour qui il n'y a pas encore de plan concret pour une telle discussion. Enfin, au Proche-Orient, le prince héritier saoudien Mohamed Ben Salman exige l'arrêt des attaques d'Israël au Liban et à Gaza, qualifiant de génocide la guerre conduite par Israël contre les Palestiniens. Appel lancé lors du sommet à Riyad avec des dirigeants de la Ligue arabe et de l'Organisation de la coopération islamique. Une position unie des pays arabo-musulmans pour tenter d'influencer la politique américaine dans la région, à la faveur, là encore, du retour de Donald Trump à la Maison-Blanche. 6 jours après la réélection du climato-sceptique Donald Trump et alors que des centaines de milliards de dollars d'aide sont réclamés par les pays en développement pour faire face au réchauffement climatique, la 29e conférence climatique de l'ONU s'est donc ouverte aujourd'hui à Bakou, en Azerbaïdjan, par un appel à la coopération mondiale, appel lancé par le président de l'ONU Climat, Simon Steele.
Arrêtons de nous dire que le financement de l'action climatique est une œuvre de charité. Un nouvel objectif financier ambitieux est dans l'intérêt de chaque nation, y compris les plus grandes et les plus riches. Nous ne pouvons pas quitter Bakou sans un accord ambitieux. Il est temps de montrer que la coopération internationale n'est pas au point mort, qu'elle va se renforcer ici. Alors je vous exhorte, mobilisons-nous tous.
Let us rise together.
Et l'enjeu principal de cette COP, qui va durer jusqu'au 22 novembre prochain, c'est de fixer le montant de l'aide climatique des États développés en faveur des pays en développement afin qu'ils se développent sans charbon ni pétrole et puissent affronter plus de canicules et d'inondations. Une aide qui doit s'exprimer en milliers de milliards annuels, réclament les pays pauvres. Mais malgré toute l'importance de ces enjeux, les négociateurs ont en tout cas perdu aujourd'hui des heures pour seulement se mettre d'accord sur l'ordre du jour. Et puis, cette COP29, il faut bien le dire, ne rassemble pas les foules cette année. De nombreux chefs d'État et de gouvernement n'ont pas fait le voyage à Bakou. Pas de président américain, brésilien, français, sud-africain, canadien ou bien encore australien. Des absences pourtant sans grandes conséquences, nous explique Sébastien Treyer, le directeur général de l'Institut du développement durable et des relations internationales.
La présence des chefs d'État aurait pu donner une impulsion positive, plus importante. Néanmoins, ce qui va compter beaucoup, c'est la présence des ministres des Finances. On voit vraiment se déployer dans la discussion sur le climat, le fait qu'il ne s'agit pas uniquement d'une discussion entre les ministères de l'Environnement, mais une discussion sur la question des politiques macroéconomiques des pays, une discussion sur la manière dont on peut stabiliser l'économie mondiale, qui est sinon en risque de subir les dommages du changement climatique, et notamment stabiliser la situation économique des pays les plus pauvres. Et ça, c'est une discussion sur laquelle les ministères des Finances sont très présents et c'est ça qui me rassure aujourd'hui. Mais je crois qu'il faut aussi compter sur le fait que dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, le sommet du G20 brésilien ou des éléments sur la finance du côté de la réforme de la Banque mondiale, des banques multilatérales de développement, du Fonds monétaire international vont permettre de consolider ce qui se discute à Bakou. Ce qui se discute à Bakou, c'est des centaines de milliards de dollars par an. Ce qui se discute dans les enjeux discutés au G20, c'est des milliers de milliards de dollars. Donc les montants sont 10 fois plus importants au G20.
Sébastien Treyer, le directeur général de l'Institut du développement durable et des relations internationales, il était l'invité de RFI à la mi-journée. Et alors que le nom du nouveau président américain Donald Trump est sur toutes les lèvres à Bakou, L'émissaire du président sortant, Joe Biden, a quant à lui cherché à rassurer le monde en assurant que les États-Unis n'abandonneront pas la lutte contre le changement climatique. Les ambitions de l'accord de Paris sont en tout cas en très grand danger, a alerté l'ONU aujourd'hui, avec cette année 2024 qui est quasiment assurée de devenir l'année la plus chaude jamais enregistrée sur Terre. Depuis sa victoire à l'élection présidentielle américaine, Donald Trump multiplie les appels concernant la guerre en Ukraine. Le Washington Post fait d'ailleurs état d'un échange avec le président russe Vladimir Poutine. Un appel téléphonique démenti ensuite par le Kremlin. Alors, Donald Trump a-t-il réellement initié une conversation jeudi dernier avec Vladimir Poutine, comme le rapporte le Post ? Cela ne correspond absolument pas à la réalité, c'est une pure invention, une fausse information, a déclaré le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, à la mi-journée, ajoutant d'ailleurs qu'il n'y avait pas de plan concret pour une telle discussion, que les deux hommes se sont pourtant dit prêts à avoir la semaine passée. À Moscou, la correspondance d'Anissa El-Jabri.
Entre la prudence et une forme de jubilation pas tout à fait assumée, le climat en Russie depuis l'élection de Donald Trump n'est pas encore stabilisé. L'affaire du coup de fil Trump-Poutine fait-elle les gros titres et même démentie ? Elle est présentée comme une avancée positive pour la Russie. Écoutez ce politologue, c'était à la mi-journée sur la première chaîne de télévision du pays.
Sur le principe, il est presque évident qu'un tel appel peut avoir lieu. Vladimir Poutine a déclaré il n'y a pas si longtemps qu'il était prêt à parler à Trump. Et Trump a dit qu'il était prêt à appeler Vladimir Poutine. Le fait qu'il puisse y avoir un tel appel téléphonique entre le futur chef d'État des États-Unis et l'actuel chef de la Fédération de Russie est en soi significatif. Peu importe qu'il y ait eu un appel ou non. Ce qui compte, c'est le fait qu'une telle connexion soit possible. C'était impossible à imaginer avec Biden, par exemple. Il ne pouvait pas se permettre d'appeler Vladimir Poutine pour des raisons purement de réputation pour lui-même et pour son audience. Pour eux, ce serait une trahison de l'Ukraine. C'est pourquoi l'Ukraine a réagi si vivement à cet éventuel appel hypothétique. Ils ont fait comme si cela n'avait pas eu lieu.
Toujours selon le Washington Post, Donald Trump aurait, jeudi, appelé le président russe à ne pas provoquer d'escalade en Ukraine. Samedi soir, Vladimir Poutine, lui, signait le traité de défense mutuelle avec Pyongyang. Le Kremlin, jusqu'ici, s'est montré ambigu sur la présence de soldats nord-coréens parmi ses troupes. Anissa El-Jabri, Moscou, RFI.
Et puis réuni à Paris pour commémorer le 11 novembre et la fin de la Grande Guerre, le président Emmanuel Macron et le premier ministre britannique Keir Starmer ont réaffirmé leur détermination à soutenir l'Ukraine de façon indéfectible et aussi longtemps que nécessaire, alors que la poursuite de l'aide militaire des États-Unis semble plus que jamais remise en question avec le retour de Donald Trump. L'Ukraine, qui reste sous le feu brutal de la Russie après 2 ans et demi de guerre, l'alerte aérienne générale a résonné dans tout le pays aujourd'hui après une série de frappes qui ont fait au moins 6 morts à Mykolaïv et à Zaporijja dans l'est du pays. Au Proche-Orient, le prince héritier saoudien MBS Mohamed Ben Salman exige l'arrêt des attaques d'Israël au Liban et à Gaza. Appel lancé à la communauté internationale lors d'un sommet à Riyad avec des dirigeants de la Ligue arabe et de l'Organisation de la coopération islamique. Une occasion de présenter au président élu Donald Trump une position unie susceptible d'influencer la politique américaine dans la région. Les explications de Nicolas Falaise.
Dès l'ouverture du sommet, le prince héritier saoudien Mohamed Ben Salman a utilisé le terme « génocide » pour qualifier les opérations militaires d'Israël dans la bande de Gaza. L'hôte du sommet de Riyad a également appelé l'État hébreu à respecter la souveraineté territoriale de l'Iran et à s'abstenir d'attaquer son territoire. Des déclarations très fermes, autour desquelles se retrouveront les membres de la Ligue arabe comme ceux de l'Organisation de la coopération islamique, même si de fortes divergences existent entre ceux qui ont normalisé leurs relations avec Israël et ceux qui s'y opposent, à commencer par la République islamique. La réunion de ce lundi en Arabie Saoudite se déroule moins d'une semaine après l'élection de Donald Trump aux États-Unis et alors que les pays de la région s'interrogent toujours sur les intentions de ce dernier. Le prochain président américain s'efforcera-t-il de mettre fin au conflit en cours comme il l'a promis ou sera-t-il un soutien inconditionnel de l'État hébreu dans la guerre? comme dans le projet de l'actuel gouvernement israélien de torpiller toute perspective d'établissement d'un État palestinien.
Et pour Israël, en tout cas, la création d'un État palestinien n'est pas une position réaliste, a tranché ce lundi le ministre israélien des Affaires étrangères, Gideon Star, arguant qu'un État palestinien serait un État aux mains du Hamas.